Bonjour Sandra, je suis un peu déprimé ce matin. J'ai heureusement assisté à une réunion sur comment gérer les émotions pour les petits de 2 à 5 ans. Et ça va nous servir. On a reçu une lettre pour le conseil d'anciens, on a reçu une lettre cette semaine dans laquelle la mairie nous annonce que au mois de juillet, nous ne pouvons pas faire vite à ville. On n'a pas le droit de sortir des murs de l'église. En fait, pour plusieurs raisons, il y a la Coupe d'Europe de foot, il y a plein de choses qui font changement aussi, les élections, etc. Bref. Donc vous pouvez lever votre main comme ça. Et puis vous mettez votre doigt sur le pouce. Allez-y, allez-y, parce que. Et là, vous inspirez comme ça. Et vous expirez. Et là, vous vous sentez mieux. En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit. Alors, bien évidemment, je plaisante. Mais la question, c'est si on nous annonçait que Vita Ville est vraiment annulée. Ça fait tellement de temps qu'on en parle, qu'on aimerait même que ce soit la semaine qui vient, là. Comment est-ce que nous réagirions? Est-ce que ce serait le découragement? Est-ce que ce serait la colère face à ce sentiment d'injustice? Il se trouve que c'est une situation qui a déjà été vécue dans le livre des Actes. Et j'aimerais vous proposer de regardez Actes 4, 24 à 30, pour lire un passage où justement Pierre et Jean ont été confrontés à l'opposition des chefs religieux qui les ont arrêtés, qui les ont menacés et qui leur ont dit d'arrêter de parler de Jésus. Regardez le verset, donc Acte 4. Versets 24 à 30. On va commencer au verset 23. Une fois relâchés, Pierre et Jean allèrent trouver les leurs et racontèrent tout ce que les chefs des prêtres et les anciens leur avaient dit. Après les avoir écoutés, ils s'adressèrent tous ensemble à Dieu en disant « Maître, tu es le Dieu qui a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi cette agitation parmi les nations et ces préoccupations dépourvues de sens parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les chefs se sont ligués ensemble contre le Seigneur et contre celui qu'il a désigné par onction. Il est bien vrai qu'Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et les peuples d'Israël contre ton saint serviteur Jésus que tu as consacré par onction. Ils ont accompli tout ce que ta main et ta volonté avait décidé d'avance. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Déploie ta puissance pour qu'il se produise des guérisons, des signes miraculeux et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Bonjour Sonra, nous poursuivons ce matin notre série sur la prière dans la Bible. On a déjà entendu des interventions sur la prière de Néhémie avec Benjamin, qui est une prière de repentance, la prière de Marie, qui était une prière de reconnaissance, la prière des premiers chrétiens, qui était une prière de combat. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Jean-Lionel nous parlera bientôt de la prière de communion dans Acte 17. Et puis la semaine prochaine, Paul sera abordé par Christian avec la prière d'intercession. Cette prière dans le livre des Actes est une prière qui est là pour nous inspirer et pour nous motiver à nous adresser à Dieu. Et j'aimerais commencer par insister sur le contexte de cette prière que j'ai appelée la prière boomerang. Je vous donne tout de suite, pas de mystère, pourquoi une prière boomerang? Parce que quand tu pries, Dieu entend et répond. Prière, réponse, prière boomerang. Mais vous allez voir que c'est un peu plus subtil que ça. Le contexte de cette prière, dans Actes 4, C'est celui de la naissance de l'Église à Jérusalem. C'est celui des premières persécutions. Les dirigeants juifs sont bousculés et les apôtres, cependant, refusent de se taire. C'est aussi un contexte de triple croissance de l'Église. L'Église croît en nombre. Juste avant, il y a 5000 personnes qui se rajoutent à l'Église. Voilà un petit détail. L'Église grandit aussi en problème. C'est ce qu'on voit d'ailleurs au chapitre 5-6. L'Église voit aussi l'opposition des autorités religieuses grandir. Jusqu'à chapitre 7, que Étienne soit lapidé et que du coup les chrétiens de Jérusalem soient obligés de fuir pour la plupart la ville. C'est cependant un contexte aussi de triple protection divine. Malgré l'opposition des chefs religieux, l'opinion publique est favorable. Le Jérusalem Post a des articles qui sont élogieux sur ce que font ces premiers chrétiens dans la ville. Il y a un homme qui a plus de 40 ans, qui vient d'être guéri, et c'est tout à l'honneur de ces premiers chrétiens. Même au sein des chefs religieux, il y a une protection divine parce que certains sont inquiets des réactions de la foule. Ils disent « Oh, on va pas trop s'énerver sur ces gens-là parce que la foule risque de se retourner contre nous. » Et même parmi les chefs religieux, certains prennent la défense de ces premiers chrétiens. C'est l'histoire de Gamaliel qui était un des responsables juifs de Jérusalem et qui explique que ouais, il faut peut-être pas courir le risque de lutter contre Dieu. Quelle est la réaction de Pierre et de Jean dans ce contexte à la fois de croissance de l'Église, mais aussi de persécution, où on leur dit « Mais maintenant, vous vous taisez. Vous restez chez vous, vous n'allez plus dans les rues pour parler de Jésus. » Eh bien, leur réaction, c'est une prière. Et cette prière, je l'ai appelée prière boomerang, pour trois raisons, parce que c'est une prière parmi de nombreuses autres prières dans les Actes, une prière inspirante et une prière de combat. Tout d'abord, une prière parmi d'autres dans le livre des Actes. Ça m'a frappé en survolant le livre de voir à quel point la prière est présente dans ce livre. La prière est présente pour plusieurs raisons. J'en ai trouvé sept principales. Chapitre 1, faire le choix d'un nouvel apôtre. Chapitre 6, le choix des diacres, assurer la bonne direction de l'Église. Chapitre 7, demander à Dieu de pardonner à ses ennemis. C'est Étienne qui dit « Père, pardonne-leur ». Chapitre 11, c'est une prière pour célébrer la gloire de Dieu. Et on le voit aussi chapitre 21. Une prière pour dire adieu. Lorsque Paul quitte les anciens d'Éphèse, il les quitte en priant. Une prière pour remercier Dieu pour le pain du repas. Lorsque Paul est sur un bateau qui est en train de faire naufrage et de se briser par les vagues. Une prière pour remercier Dieu pour les autres chrétiens que nous connaissons. Au dernier chapitre des Actes, Paul remercie Dieu pour les frères de Rome qui sont venus à leur rencontre et qui lui ont redonné courage. Cette panel de sujets montre que pourquoi prier ? Eh bien, pour toutes sortes de choses, à la fois pour remercier Dieu, mais aussi pour lui demander de la sagesse lorsqu'on a des décisions à prendre, ou tout simplement pour s'encourager les uns les autres. Dans le livre des Actes, on voit aussi que la prière est à la fois faite en privé, mais aussi en public. Lorsque Paul remercie pour le repas, il le fait devant tous, sur le bateau, devant tous les passagers. C'est une prière qui peut aussi être faite en tout lieu. Il y a, dans le livre des Actes, plein de lieux différents où on voit des personnes prier. Ce qui est assez amusant parce que il y a même un passage dans Actes 16 où il est question d'aller dans un... Paul explique qu'il cherchait un lieu de prière dans l'espoir de pouvoir rencontrer des gens avec qui parler. Mais lorsqu'on voit les lieux de prière dans le livre des Actes, on réalise qu'en fait, il n'y a plus de lieu de prière. Tout lieu est un lieu pour prier. Que ce soit dans le temple, que ce soit au bord d'une rivière, que ce soit dans une maison, que ce soit sur le toit d'une maison, dans Acte 10, que ce soit dans la rue, sous les jets de pierre, Étienne, au moment où il est lapidé, il prie, que ce soit sur une plage, pensez-y cet été, pendant vos vacances, qu'est-ce que tu fais sur ta chaise longue? Je prie. Sur le rivage, ou encore sur un bateau, chapitre 27, on voit qu'il n'y a pas de lieu pour prier. On peut prier de partout. Au travail, à l'école, dans son lit, sous la douche, etc. À vélo, en trottinette. D'ailleurs, il vaut mieux prier en trottinette. En voiture, etc., etc. On peut prier aussi en tout temps. C'est amusant, dans Acte 3, au moment où Pierre et Jean font cette guérison, c'est l'heure de la prière au temple. Donc, dans la tradition juive, il y avait des heures de prière. Et ce qu'on découvre lorsqu'on parcourt le livre des Actes, c'est qu'il n'y a plus d'heures de prière. Parce que toute la journée est une journée de prière. Chaque heure est une heure de prière. Chaque minute, chaque seconde est un temps de prière. Ainsi, on voit que ils peuvent, dans le chapitre 10, Pierre prie en attendant le repas. Il est invité chez les gens, il a super faim, le repas ne vient pas et du coup il va prier. Peut-être parce qu'il espère que le repas arrive. Ça, c'est mon interprétation, je ne pense pas que ce soit exactement ça qu'il faut comprendre. Mais on voit aussi que à plusieurs reprises, les apôtres prient aussi en pleine nuit. Dans Acte 12, pendant que Paul est en prison. On voit aussi qu'il n'y a pas de manière de prier. Parfois, on voit des personnes qui prient à genoux. Parfois, on voit des personnes qui prient de manière ardente. Et souvent, on voit des personnes qui prient de manière persévérante. Mais surtout, cette prière, ces prières que l'on trouve dans le livre des Actes, sont motivées par le Saint-Esprit. Et c'est extraordinaire de savoir que même si nous ne savons pas forcément comment nous adresser à Dieu, ou quoi lui demander exactement, de quoi lui parler exactement, eh bien le Saint-Esprit en nous peut nous inspirer et peut nous guider sur ce que nous devons lui dire. Mais combien c'est rassurant de savoir que je peux prier, c'est-à-dire je peux parler à Dieu en tout lieu, en tout temps, et en fait de tout ce que je vis. Dieu est intéressé par tout ce que je vis et tout ce que je peux lui dire m'intéresse. Alors c'est extraordinaire et je peux en profiter pour parler à Dieu. D'ailleurs, vous savez que la prière pour les apôtres était une priorité. Dans Acte 1, verset 14, il est marqué que tous persévéraient d'un commun accord dans la prière. On retrouve ça dans Acte 2, 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et dans Acte 6, lorsqu'il s'agit de choisir des diacres, la motivation des apôtres, c'est de dire que nous puissions continuer à nous consacrer à la prière et au ministère de la parole. La prière est donc bien présentée comme un pilier essentiel de la bonne santé, de la croissance et de l'affermissement d'une église. Une application toute simple. Est-ce que je prie pour mon église? Et est-ce que je prie pour que mon église soit en croissance, alors en nombre, mais surtout en qualité, et que mon église soit aussi un lieu qui m'encourage à parler avec Dieu et à parler de Dieu. Deuxièmement, cette prière est inspirante. C'est un modèle de prière. Pourquoi ? Parce que si on regarde la manière dont cette prière est construite, c'est très intéressant de voir que, tout d'abord, c'est une prière collective, Ensuite, c'est une prière de foi dans l'autorité du Créateur. Enfin, c'est une prière de foi dans l'autorité de Dieu sur les autorités, qui se termine par des requêtes. Pourquoi cet ordre-là ? Parce que le socle de la puissance de cette prière, c'est que, verset 24, ils s'adressèrent tous ensemble à Dieu. C'est une prière collective. Alors peut-être que matériellement, il y a une personne qui a prié, puis tout le monde a dit « Amen » à la fin, mais c'est ce qu'on entend à travers les prières qu'on a aussi adressées à Dieu et l'adoration qu'on a faite ensemble. Chaque fois où on dit « Amen » à la fin d'une prière, c'est une manière pour nous de dire « On s'associe à ce que notre frère, notre sœur a exprimé et nous voulons louer Dieu pour ce qui vient d'être dit. » C'est une prière collective, ce qui veut dire que c'est une prière qui est prononcée dans l'unité. Pierre et Jean ont été ciblés en particulier, mais c'est l'ensemble de l'Église qui est là. Peut-être qu'ils ont fait un cercle, ils ont mis Pierre et Jean au milieu, ils ont tous mis leurs mains sur eux, et ils ont prié ensemble pour les encourager et pour s'encourager. Mais une chose est sûre, c'est qu'ils vivent l'unité. Pourquoi c'est un socle de la puissance de la prière ? Jean-Lionel va nous en parler le 16 février. Dans la prière de Jésus, dans Jean 17, Jésus prie pour ses disciples afin qu'ils soient parfaitement un. Et c'est à ce moment-là que le monde peut voir qu'il y a une différence, que le fait d'être chrétien fait une différence. Alors, Francis Chan, dans son livre « Lettre à l'Église », explique que, alors, Francis Chan, son contexte culturel, il a fondé avec succès une méga church, donc une église avec des milliers de membres, un grand succès, et aujourd'hui il a un regard un petit peu critique sur ce qu'il a fait, et voilà ce qu'il dit. Nous avons mis sur pied quantité de stratégies pour atteindre les perdus, pourtant Dieu nous a prévenus. Ce qui fonctionne, c'est l'unité. Nous nous bousculions pour mettre au point des cours, des programmes, des manifestations qui promeuvent tout sauf la stratégie que Dieu nous a donnée. Alors, une petite précision, on va mettre un programme sur toutes les activités de la semaine de Vitaville. On a déjà tout planifié, etc. On est confiant avec ça. Ce que je veux dire, c'est que, et ce que Francis Chan veut dire, c'est que si on n'est pas unis dans cette action, si on n'est pas ensemble dans cette action, ce sera juste des activités parmi d'autres et ça aura pas d'intérêt pour faire avancer l'Évangile. Donc notre prière pour Vitaville, c'est que nous puissions préparer, vivre cette semaine et toutes ces activités dans l'unité. L'autre information que l'on voit, c'est que c'est une prière qui exprime une foi dans l'autorité du Créateur. Verset 24, « Maître, tu es le Dieu qui a créé le ciel, la mer et tout ce qui s'y trouve. » C'est une prière aussi qui exprime une foi dans l'autorité de Dieu sur les autorités. Verset 26, « Les rois de la terre se sont soulevés, les chefs se sont ligués ensemble contre le Seigneur et contre celui qu'il a désigné par onction. Il est bien vrai qu'Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et les peuples d'Israël contre ton saint serviteur Jésus que tu as consacré par onction, mais ils ont accompli tout ce que ta main et ta volonté avaient décidé d'avance. » Pourquoi ces détails sont importants ? Parce que lorsque nous nous adressons à Dieu, nous le faisons parce que nous croyons qu'il est le Créateur, c'est-à-dire que c'est lui qui connaît toutes les lois de la physique, et bien plus que cela, et qui sait comment ce monde tourne. Donc lorsqu'on s'adresse à lui, on peut avoir confiance qu'il fait bien les choses et qu'il sait comment faire les choses. Quand on doit construire une maison, aujourd'hui, si on fait appel à un architecte, c'est parce qu'on a confiance qu'il va savoir quel est le type de poutre qu'il va falloir mettre pour que le toit ne s'effondre pas, etc. C'est super rassurant. Et c'est ça notre manière de voir Dieu, de savoir qu'on est rassuré quand on s'adresse à lui. Et deuxièmement, il est l'autorité au-dessus des autorités. Et donc même si tout ce que les autorités peuvent décider, eh bien nous savons que celui à qui nous nous adressons, il est même au-dessus des autorités. C'était le fil rouge de ce que Benjamin nous a partagé juste avant. Et ça, c'est formidable, parce que la prière pour nous, c'est vraiment l'idée qu'on s'adresse à, il n'y a pas plus haut. Donc c'est incroyable, c'est formidable. J'ai écouté l'histoire d'un homme d'affaires qui s'appelle Pierucci, directeur d'une des branches de Alstom. Alstom a été racheté par General Motors il y a quelques années, ça doit peut-être vous dire quelque chose. General Electric, aussi une entreprise américaine. Et il se trouve que les négociations entre General Electric et Alstom étaient compliquées. Et Pierucci s'est retrouvé dans une prison aux États-Unis comme bouc émissaire pour faire peser les négociations en faveur de General Electric. Sauf qu'au début, il ne savait pas pourquoi il était en prison. Il n'a pas compris. Personne ne lui a expliqué. Et sa famille a essayé de faire nouer, a essayé d'interroger, de faire remonter l'affaire jusqu'au gouvernement. Sans aucun écho, sans réponse. Et puis, c'est seulement en sortant de prison après, etc., qu'il a compris les tenants, les aboutissants de cette affaire. Quand on s'adresse à Dieu, quand on prie Dieu, on n'a même pas d'intermédiaire. C'est directement auprès de lui qu'on s'adresse. C'est directement auprès de celui qui prend les décisions suprêmes qu'on s'adresse. Et ça, c'est incroyable. Et franchement, il faut en abuser de ce privilège. Et enfin, c'est une prière qui repose sur trois requêtes assez précises. Il y a trois demandes dans cette prière. Sois attentif à leurs menaces. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Et troisièmement, déploie ta puissance pour qu'il se produise des guérisons, des signes miraculeux et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Pourquoi demande-t-il cela? En fait, la prière de ces premiers chrétiens ici est directement inspirée de l'ordre de mission que Jésus leur a donné. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dans Matthieu 28. Et dans Acte 1. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus a donné aux chrétiens cette mission particulière d'être ses témoins, d'être ceux qui annoncent cette bonne nouvelle que Jésus est vivant. Ils peuvent donc légitimement demander à Dieu d'être attentifs aux menaces face auxquelles ils sont confrontés. Ils peuvent demander à Dieu d'annoncer, de pouvoir continuer à annoncer la parole malgré les dangers et que sa puissance les accompagne, parce qu'ils sont en plein dans le mille de la volonté de Dieu. Vous avez entendu cette histoire de cet enfant terrible qui se calmait pas le soir, qui ne voulait pas dormir. Et puis, la maman qui avait l'habitude de prier avant de dormir avec son enfant, et puis bon, voilà, ça passait pas très bien. Puis un soir, un ami des parents qui est à la maison, il interroge les parents, puis la maman, il lui dit, mais est-ce que tu pries Dieu? Je recommence, pardon. Il prend à partie l'enfant, et puis il dit à l'enfant, mais est-ce que tu demandes à Dieu de te rendre plus sage? Et l'enfant, il répond, non, moi je demande à Dieu de rendre maman plus patiente. Alors, bien sûr, c'est un enfant. Et nous qui sommes adultes, on est beaucoup plus raisonnables que cela. Mais ce qui est amusant, c'est que ici, ces chrétiens ne prient pas tant pour que les personnes qui s'opposent à eux soient transformées, mais ils prient pour que la puissance de Dieu transforme leur cœur et qu'ils puissent continuer à annoncer la parole. Et finalement, face à l'adversité, face aux difficultés que je peux rencontrer dans ma vie, que ce soit au travail, que ce soit avec mes collègues, avec mon patron, que ce soit avec mes camarades, que ce soit par rapport à toutes sortes d'obstacles que je peux rencontrer, bien souvent ma prière ça va être « Seigneur, fais que cet obstacle disparaisse, que cette personne soit changée. » En réalité, ma prière, peut-être d'abord, Seigneur, change mon cœur. Seigneur, que je réalise que j'ai besoin d'être plus dépendant de toi, qui est le Créateur, qui est celui qui est au-dessus de toute autorité, et que l'objectif de ma vie est bien plus grand, est bien plus large, est bien plus important que cette personne qui me fait du mal, ou cette personne qui m'embête, ou cet obstacle qui est devant moi. J'ai un objectif, c'est d'être un canal par lequel d'autres personnes puissent découvrir l'Évangile. Vous voyez pourquoi c'est une prière boomerang? Lorsque je prie et que je parle à Dieu de ce que je vis, Dieu en réalité veut transformer mon cœur et transformer ce qui est là à l'intérieur, m'aider à voir les choses autrement. Dans cette prière, on a donc des chrétiens qui sont unis, qui sont dépendants de Dieu pour transformer leur cœur et qui sont conscients, comme le dit Francis Chan, si Dieu n'intervenait pas, ils ne pourraient jamais s'acquitter de la mission qu'il leur avait confiée. C'est pourquoi ils s'agenouillaient constamment ensemble. Et je termine avec cette prière de combat. Un boomerang, c'est une arme. En fait, nous, on trouve ça très joli, mais en réalité, c'est une arme de chasse. Alors, j'ai déjà lancé un boomerang, j'ai déjà réussi à le rattraper, mais j'ai jamais réussi à tuer un lapin avec. Il faut vraiment être super fort. Mais vous savez que c'est une arme, et en fait, quand il revient, si on ne fait pas gaffe, on peut avoir des problèmes. Il ne faut pas le louper. Et cette prière est une prière de combat parce que elle vise à encourager ces premiers chrétiens à continuer à annoncer l'Évangile face à l'adversité. Et elle nous donne un encouragement et aussi une réponse à comment faire face à cette adversité. Est-ce que je peux vous parler de Winnie l'ourson? Alors, je ne veux pas faire de politique, mais simplement j'aimerais que vous sachiez que, en fait, en Chine, Winnie l'ourson est interdit, censuré. Pour une raison toute simple, c'est que plusieurs images ont circulé sur les réseaux sociaux chinois comparant le président Xi Jinping à Winnie l'ourson. Et il ne l'a pas bien pris. Et du coup, la solution en Chine, elle est assez simple, on censure. Sauf que dans le livre des Actes, c'est pas Winnie l'ourson qui est censuré. C'est l'annonce de la bonne nouvelle de l'Évangile de Jésus-Christ. Et autant on peut vivre sans publier des images de Winnie l'ourson, on est d'accord là-dessus, autant là, les apôtres ne sont pas prêts à faire une concession. Juste avant, ils ont exprimé aux chefs religieux « Est-il juste devant Dieu de vous écouter, vous, plutôt que Dieu? Jugez-en vous-même. Quant à nous, nous ne pouvons pas ne pas annoncer ce que nous avons vu et entendu. » Autrement dit, Pierre, Jean, les premiers chrétiens qui sont avec eux, ne se trompent pas de combat. face à une opposition spirituelle, l'interdiction d'annoncer l'évangile, ils ont une réponse spirituelle, la prière. Face à une opposition physique, les menaces, les coups de fouet, la prison, ils ont une réponse physique. Ils refusent d'être muets et ils continuent de parler à Dieu et ils continuent à parler de Dieu aux hommes qu'ils côtoient. Alors ça pose une question pour nous de ce paradoxe qu'on retrouve tout au long des Écritures. Faut-il obéir ou désobéir aux autorités ? Dans 1 Pierre 2, on lit que « À cause du Seigneur, soumettez-vous à toutes les institutions établies parmi les hommes, soit au roi, parce qu'il est au-dessus de tous, soit aux autorités, etc. » Donc on a clairement une indication qu'on doit respecter les autorités. Et en même temps, dans ce livre des Actes, on voit bien que à plusieurs reprises, ils désobéissent aux autorités, dans la mesure où leur liberté de foi et d'expression de foi est en jeu. Ça, c'est assez simple à expliquer, mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a parfois des nuances dans la manière dont on désobéit aux autorités. Vous avez peut-être entendu parler de Wang Yi. C'est un pasteur d'église de maison en Chine qui a fait le choix d'exprimer son désaccord par rapport à la volonté du gouvernement de renforcer sa mainmise sur les églises chinoises. Les églises sont considérées comme potentiellement des menaces pour le Parti communiste chinois, et donc sa volonté, c'est qu'il y ait de moins en moins d'églises de maison et de plus en plus d'églises officielles où le gouvernement a la liste des membres et peut donc suivre plus facilement ce qu'il se passe. Wang Yi a publié un pamphlet dans lequel il écrit, son titre, c'est « Déclaration de désobéissance fidèle », et dans lequel, publiquement, il exprime le fait que « Voilà pourquoi je n'obéis pas au Parti communiste chinois, dans la mesure où c'est pour respecter ma foi, mes croyances et Jésus-Christ qui est mon seul maître. » Le 9 décembre, il a été arrêté avec 10 autres responsables de cette église, et le 30 décembre, il a été condamné à plusieurs années de prison. Mais ce pasteur s'y attendait en fait. Il est juriste à la base, donc il sait très bien comment ça marche. Et en fait, il a fait le choix de dire « Je ne veux pas me taire et je veux publier l'évangile de manière libre. » Il écrit « L'appel que j'ai reçu m'oblige à utiliser des méthodes non violentes pour désobéir aux lois humaines qui s'opposent à la Bible et à Dieu. Christ me demande aussi d'en supporter le prix avec joie. » Ça, c'est le choix de Wang Yi en Chine. Mais il y a toutes sortes d'autres choix, d'autres manières de s'opposer aux autorités lorsqu'elles atteignent notre foi. Et vous avez peut-être déjà entendu parler de missionnaires présents dans des pays d'Afrique du Nord, qui sont des pays musulmans, et ce sont des missionnaires qui choisissent pour annoncer l'évangile de travailler sur place, de gagner leur vie sur place, et de vivre avec la population, et d'annoncer l'évangile de manière complètement en privé, dans les familles, etc., et sans chercher à faire de vagues et à s'opposer aux et à brusquer les autorités. Il n'y a pas de recettes particulières selon le contexte, selon aussi notre situation personnelle, notre vision des choses. Il peut y avoir différentes manières de présenter l'évangile. Pour conclure, cette prière du livre des Actes est une prière boomerang parce que c'est une prière exaucée. Verset 31, « Quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Leur cœur a été transformé pour pouvoir poursuivre la tâche qu'ils avaient à accomplir. Et d'ailleurs, c'est assez fou de voir que la dernière phrase du livre des Actes dit ceci. Paul, qui était en résidence surveillée, Paul prêchait le royaume de Dieu et enseignait ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ avec une pleine assurance et sans obstacle. Le Saint-Esprit poursuit son œuvre depuis le livre des Actes et continue à le faire jusqu'à aujourd'hui. Et pourquoi cette prière a été exaucée ? Parce que Dieu est le Créateur, parce que Dieu est au-dessus de toute autorité, et parce qu'il est précisé au verset 27 que l'opposition auquel les chrétiens font face, c'est une opposition qui a lieu contre ton saint serviteur Jésus que tu as consacré par onction. Qui est ce roi des rois ? C'est Jésus-Christ. Pourquoi est-ce qu'il est le roi des rois ? Parce que, avec obéissance, il a accepté d'aller jusqu'à la croix, de mourir, pour ensuite ressusciter de manière glorieuse et aujourd'hui d'être à la droite du trône de Dieu. Comment mon cœur peut-il être transformé ? Uniquement si je reconnais ma faiblesse, mon besoin de Christ. Si je reconnais que le principal adversaire dans ma vie, c'est pas celui qui cherche à attaquer ma foi, mais c'est toutes ces craintes qui sont à l'intérieur de moi et qui sont là pour me dire « Non, mais tais-toi, ne parle pas de Jésus, ne montre pas tes couleurs et n'annonce pas l'évangile parce que tu vas perdre telle ou telle chose, tu mets en jeu tel ou tel aspect de ta réputation, etc. » Ces craintes qui nous disent « Mais comment les gens vont réagir ?» Christ peut transformer mon cœur. Et Christ peut me montrer que ce qu'il a vécu, il l'a vécu pour que moi aussi je connaisse cette puissance de l'Esprit en moi qui fait voler en éclats toutes mes craintes. Comme application pour terminer, je vous propose une application toute simple. Priez en tout temps, en tout lieu, à tout moment. Et prier cette prière boomerang. Quand je prie pour la transformation de quelqu'un, je prie aussi pour ma transformation, en priorité. Je parle à Dieu des obstacles que je rencontre pour annoncer l'évangile d'abord, et puis des obstacles que je rencontre dans ma vie en général, que ce soit ma santé, que ce soit mes collègues de travail, que ce soit mes circonstances de vie. Même là, je prie encore, certes pour que ces circonstances soient changées, mais surtout pour que mon cœur soit changé et que mon regard sur ces circonstances soit changé. Pour les voir, pour voir ces problèmes comme Dieu les voit, lui, le Créateur, et lui, l'autorité. Amen.